Joseph Méry, La chasse au chastre. Préface courte et nécessaire. Un jour, Alexandre Dumas se promenait au grand soleil sur une de ces collines marseillaises qui ont horreur de la végétation. Il marchait d'un pas très rapide. Je le suivais de loin, comme s'il eût écrit. Tout à coup, le géant littéraire et physique s'arrêta, saisi de stupéfaction. Il faut beaucoup pour étonner Dumas. C'était beaucoup, en effet. Au sommet de cette colline chauve, s'élevait un cimeau. « Qu'est-ce que cela ?» me dit Alexandre. « C'est un cimeau, lui dis-je. Ah, oh, ben voilà bien avancé. Traduisez-moi ce grec provençal en français. » « Intraduisible comme un vers d'Homère. » « Mais à quoi sert cette chose intraduisible ?»« Devinez. » »« Oh, c'est le sphinx sur le mont Citéron. J'ai pas le temps d'être Édipe. Donnez-moi le mot. »« Je vous le vends. »« Votre prix ?»« Restez un jour de plus à Marseille. »« Payez double, je reste 2 jours. »« Quel beau marché vous faites !» Voyez dans quel embarras je pouvais vous laisser. Ce soir, vous partiez sur la Maria Antonietta pour l'Italie. Ce cimeau vous poursuivait comme un fantôme. Il se dressait devant vous tout le long de la crête chauve des Apennins. Il... Oh, voulez-vous donc me dire le mot ? Interrompit Dumas avec vivacité. Je vous ai payé comptant. Eh bien, un cimeau, lui dis-je alors, est un mât de 60 pieds de hauteur, planté pour attirer les oiseaux de passage en septembre et en octobre. Il y a 50 000 cimeaux et 50 000 chasseurs sur le territoire de Marseille. « Et combien d'oiseaux ?» me demanda Alexandre. « Il n'y en a point. Alors que font les 50 000 chasseurs en présence de ces oiseaux absents ?»« Ils causent dans de petites cabanes, mes postes, et chante des airs de Guillaume Tell. Ah, vous ne connaissez pas l'histoire du chastre. » Dumas, qui connaît tous les mots de toutes les langues et qui les inventerait tous si par bonheur ils n'existaient pas, recula devant ce mot et décrivit avec son torse un superbe point majuscule d'interrogation. « Un chastre, lui dis-je, est un oiseau rare. » L'Aouis rara des anciens, un oiseau d'augure. L'Aouis castrorum, comme disaient les Romains marseillais. On a supprimé Aouis, on a dénaturé castrorum, et par corruption progressive, chastre est resté. Les étymologies n'en font pas d'autres. D'Aquae Sextiae, on est arrivé à Aix, de Massilia à Marseille, de Civitas à la Ciotat, de c'est Grigium à Arles, ce qui est beaucoup plus fort. Les générations ont la manie de mettre en pièce les origines des mots. Témoin cet épigramme. Alphana vient d'Écouz, sans doute, mais avec moi, convenez aussi, qu'en venant de là jusqu'ici, il a bien changé sur la route. Or, un musicien marseillais aperçut un jour un de ses chastres sur son cimeau. Il fit feu et le manqua. Dans les pays de chasse, ce malheur aurait fait sourire le musicien. Mais ici, manquer un oiseau, c'est manquer un phénomène. Aussi, notre chasseur se mit à poursuivre son chastre de remise en remise, et cette poursuite fiévreuse le conduisit jusqu'à Rome, sous le consulat de M. de Norvin. Alors, je contai toute l'histoire du chasseur-musicien Dumas, et je l'engageais à l'écrire, et s'il la trouvait digne, de son public, c'est-à-dire de l'univers. Dumas partit pour l'Italie, où il fit un très long séjour. Me trouvant à Vienne, en Dauphiné, bloqué par les neiges dans un hiver très rigoureux, et ne pouvant continuer ma route, je m'installai à l'auberge des Trois Rois, et pour attendre le dégel, je me mis à écrire ma chronique de Ponce Pilate à Vienne. La neige tombait toujours sur la route de Paris. Un souvenir méridional ramena ma pensée vers les tièdes collines où la chasse manque mais où le soleil ne manque pas, et de rêveries en rêveries, je songeais à l'histoire du Shastre. Croyant que Dumas avait oublié cet oiseau à travers les monuments de l'Italie, j'écrivis ma chasse et je la publiai dans la Revue de Paris. Dumas, de son côté, écrivait un délicieux roman sur le même sujet et lui donnait de larges proportions avec cette prodigalité d'esprit, de grâce, de charme que 2000 volumes n'ont pas encore épuisé et que 2000 autres n'épuiseront pas. Dumas ne connaissait pas ma chasse au Shastre de la Revue de Paris. Si j'avais cru qu'il écrirait un jour la mienne n'aurait jamais paru. Quelques lettres ont daigné souvent s'occuper de cette double chasse, et c'est pour eux que je donne cette explication. La chasse au Shastre. Chapitre 1. Au mois d'octobre 1811 ou 12, Monsieur Chay, joyeux célibataire, un des artistes les plus distingués du Midi, chassait sur sa colline, non loin de la mer, aux portes de Marseille. Il était 5 heures du matin. La chasse du Midi est bien différente de celle du Nord. Dans nos contrées, ce n'est pas le chasseur qui manque, c'est le gibier. Il n'y a point de gibier. Tout Marseillais en état de porter les armes est chasseur de droit. Il a un fusil et un carnier. Voici comment la chasse se fait. Le chasseur se lève à 3 heures du matin, fait une ou deux lieues et arrive avec une cargaison de cages à sa cabane nommée poste. Il accroche aux arbres ses cages pleines d'oiseaux qui ont fait vœu de silence. Il s'enferme dans son poste, charge son fusil, regarde les étoiles, médite, se promène pour secouer le froid, mâche les feuilles de pin, respire les parfums de la colline, assiste au lever de l'aube, de l'aurore, du soleil et du vent. Contemple la mer, maudit les nuages, soupire après la brise du nord, fait un croquis de paysage et à 10 heures, il rentre en ville, heureux et riant, il a chassé. On recommence le lendemain. Le chasseur se met en frais énormes pour se donner ce plaisir. C'est incroyable tout ce qu'il faut dépenser pour avoir un poste bien établi. Aussi, quand une fatalité phénoménale a condamné une grive à être mise à mort par un chasseur marseillais, cette grive coûte quelquefois 500 francs au chasseur. Un de mes amis, M. Blanc de Radas, m'a servi un rôti qu'il évaluait 1000 écus. Il y avait 6 ortolans sur un plat. C'était donc à une de ces chasses que se livrait M. Chay avec toute l'ardeur d'un artiste du Midi. Il regardait les cieux et ne voyait rien venir, selon l'usage, lorsque son étoile, qui justement luisait à l'horizon en ce moment, lui envoya un oiseau dans le petit bois de pin. L'obscurité protégeait l'infortuné volatile. M. Chay furetait de l'œil dans le massif à la lueur de la constellation de la Grande Ourse qui se couchait sur la colline du Nord. Il voyait ou croyait voir quelque chose d'opaque qui s'agitait dans la verdure diaphane. Il tenait son fusil dans la direction de cette forme équivoque, la couchait en joue et n'osait tirer de peur de faire feu sur une illusion. Un chasseur du Midi a tant d'intérêt à ménager un oiseau. Ces rencontres sont rares, comme dit La Fontaine, et les phénomènes sont précieux. Le jour s'obstinait à ne pas se montrer. Monsieur Chay comptait les étoiles. Il n'en restait plus que 13, mauvais nombre. 7 du chariot et 6 d'Orion, plus une planète égarée qui avait l'air d'attendre le soleil. Enfin, l'aube fit tomber à l'Orient un pli de sa robe d'opale. Le météore se glissa en longue traînée phosphorique de pin en pin jusqu'au bois de M. Chay. Une éclaircie lumineuse trahit subitement l'oiseau réfugié. Le chasseur le vit dans une auréole crépusculaire. Oh, il fallut céder à l'irritation du désir. Le fusil, mal dirigé, fit feu, après avoir averti l'oiseau par un long feu d'artifice tiré sur l'amorce. Les pistons n'étaient pas inventés. « Il est tombé !» dit le chasseur, en imitant par un cri sourd le bruit que fait un oiseau en tombant. Et il courut sous l'arbre qui avait servi de perchoir à l'oiseau. Il ramassa plusieurs pierres mousseuses et des lambeaux d'écorce, mais il ne trouva point d'oiseau. Une plume seule était restée dans les aiguilles résineuses de l'arbre. Monsieur Chay s'empara vivement de cette plume comme pièce justificative d'une maladresse et d'une évasion et la regarda d'un œil mélancolique avec le sourire de la douleur. L'aurore aux doigts de rose tombait d'aplomb en ce moment sur la plume que Monsieur Chay venait d'insérer à sa boutonnière comme une décoration ornithologique. « Ciel !» s'écria Monsieur Chay, « mais c'était un chastre, c'est une plume de chastre !» Perte irréparable. Ce n'était point un malheur ordinaire, le phénomène était double. Le chastre est un oiseau d'augure et qui n'apparaît qu'à de bien rares intervalles. Heureux le chasseur qui rentre en ville avec un pareil trophée. Il est grand devant les autres chasseurs comme Nemrod devant Dieu. Monsieur Cher répéta, « C'était un chastre !» sur tous les tons. Il se serait accompagné de son violoncelle s'il l'avait tenu sous ses doigts. L'infortuné jeta ses regards sur la campagne, déjà inondée des rayons d'un soleil moqueur. L'air était vide et silencieux. Pas un oiseau sous l'azur. Monsieur Chay recherchait son fusil en 12 temps et marchait dans le bois, secouant du pied toutes les feuilles mortes et amoncelées qui pouvaient receler un chastre. Regardant aux branches supérieures et écoutant le bourdonnement des moucherons, prenant une guêpe au vol pour un oiseau et maudissant de 12 pas en 12 pas le crépuscule, les fusils à pierre et les constellations qui donnent un jour faux. Ah, le voilà ! Nouveau cri de Monsieur Chay. C'était en effet le chastre. Il s'était levé d'une touffe d'herbe au pied du chasseur. Le fusil était parti d'inspiration, mais sans but, et avait abattu 2 pommes de pin. L'oiseau agitait triomphalement ses ailes augurales et quittait le bois pour la colline pour la plaine pour le rivage de la mer. Monsieur Chay s'élança courageusement sur les traces aériennes du chastre. Il était alors 8 heures du matin. L'ardeur de la poursuite fut admirable aux premiers élans. Monsieur Chay s'acharna contre l'oiseau qui prenait du repos de 1000 en 1000 pas, comme s'il les eût comptés, et s'envolait toujours au moment où le fusil s'abattait dans sa direction. Le chasseur et l'oiseau franchirent ainsi plusieurs plaines et quelques montagnes. Le chasseur étanchait sa soif avec des pampres de vigne plus altérés que lui. Déjà la haute chaîne qui commence à la tête du Puget et finit au cap de Mondredon s'était abaissée sous les pas de Monsieur Chay et sous les ailes du chastre. Les deux voyageurs avaient laissé à leur droite Cassis et la Ciotat et suivaient la longue et large plaine qui s'étend de Signe à Saint-Cyr. Eux, ils étaient fatigués l'un et l'autre. La nuit tombait, le joli visage de l'âge de Saint-Cyr allumait les vitres de ses maisons. Monsieur Chay, bourrant de faim, de soif, de fatigue, de tout, déposa son fusil à la porte de l'auberge de l'Aigle Noir, où on loge à pied et à cheval. Le chastre trouva un gîte je ne sais où. Pour le voyageur piéton, l'auberge du soir est faite à l'image du paradis. Monsieur Chay se fit servir un bon souper qui lui tint lieu de déjeuner, se fit donner un excellent lit et se coucha repu et joyeux. Dans la nuit, il rêva qu'il prenait des chastres avec la main. À l'aube, il était debout, selon son usage. Le chasseur adore l'aube. Avant de reprendre le chemin de Marseille, il jeta un coup d'œil et un soupir vers les heureuses campagnes de Castellet, où il présumait que l'oiseau insaisissable avait fait son gîte de nuit. Monsieur Chay longeait en ce moment un mur à demi éboulé, qui était recouvert d'une large tenture de feuilles de caprier. Du bout de son fusil, il agita ses feuilles avec ce bruit de lèvres inarticulé qu'exhale le chasseur en alignant une fusée d'air. Un battement précipité d'ailes et un petit cri annoncèrent la présence de l'oiseau. Le chastre s'était envolé. Monsieur Chay avait lâché son coup de fusil encore au hasard et courait par-dessus les vignes à la suite de sa fumée, de son plomb et de l'oiseau. Le chemin de Marseille avait été oublié. De remise en remise, de vallons en vallons, Monsieur Chay atteignit le soir la jolie ville d'hier qui embaume l'horizon de ses orangers. Monsieur Chay n'était jamais venu à hier. Il aimait les oranges à la folie. Avant de se coucher, il eut la fantaisie de se promener dans le beau jardin des Hespérides qui appartint à Monsieur Fille. Le fusil sous le bras, il cheminait avec cette gracieuse oscillation d'épaule qu'affectionne le chasseur provençal. La lune était dans son plein, et sa lumière éclatait aussi vive sur les cimes des palmiers que la lumière du soleil de Paris sur les ormeaux du boulevard Montmartre au mois d'août. L'artiste chasseur avait à son insu, comme tous les méridionaux, un grand fond de poésie dans l'âme. Il s'abandonnait nonchalamment à une douce contemplation et respirait avec une mélancolie sensuelle les parfums du thym et de l'orange, voluptueuses émanations que secouait sur sa tête le souffle nocturne de la mer. « Ah !» dit Monsieur Chay, « si j'avais mon violoncelle, oh, j'exécuterais volontiers ici chant paternel de Joseph en Égypte. » Puis il recula d'un pas et courba son corps en point d'interrogation sur une pente pariétaire que la lune argentait mollement. C'était un cabrier. La plante répondit par un léger frôlement de feuilles. Le chasseur se releva en point d'admiration et prépara son fusil. À cinq pas, sur une branche sèche, effeuillée et saillante, apparut un oiseau qui secouait ses plumes et tressaillait d'aise à la fraîcheur de la nuit. C'était le chastre. Deux motifs enclouèrent la détente du fusil sous l'index du chasseur. C'était conscience de tirer un pauvre oiseau à cinq pas. Monsieur Chay avait trop de délicatesse pour abuser de sa position. À cette distance, d'ailleurs, le chastre aurait disparu, comme Romulus dans une tempête. Le volcan l'aurait brûlé vif. Autre considération, il était défendu à hier, comme partout, de tirer des coups de fusil à 11 heures du soir. Monsieur Chay, retenu par ce double motif, demeura braqué contre l'oiseau, lequel ne tarda pas de s'endormir, le bec sous l'aile, avec l'insouciance d'un écolier au bord d'un puits. En attendant le jour, M. Chay contempla le sommeil de l'innocence, et de temps en temps, il faisait une répétition générale du drame sanglant qu'il se disposait à jouer aux pures lueurs de l'aube. Il couchait en joue l'oiseau endormi sous la foi de la lune. Il rôtissait en imagination, lui composait une sauce au capre, le dévorait des yeux. Monsieur Chay était à jeun, il prenait ses repas comme il pouvait. À force de tirer sa montre pour faire avancer l'aube, il la vit enfin poindre sur les coteaux d'hier. Alors il recula 10 pas en fredonnant mentalement l'air en vogue de Berton. Quand on fut toujours vertueux, qu'on aime à voir lever l'aurore. Il visa tranquillement le chastre, l'encadra dans le canon du fusil et pressa la détente. Le chien s'abattit avec nonchalance sur la platine, et l'écho du matin resta muet, hélas. La poudre du bassinet s'était liquéfiée à l'humidité de la nuit. Un énergique jurement de chasseur réveilla le chastre en sursaut. Il déploya ses ailes et s'envola vers l'horizon du midi. Monsieur Chay attesta les orangers voisins qu'il aurait le chastre, mort ou vif, oiseau ou chasseur, et il s'élança sur la route du Var. Cette fois, sa passion de chasseur tenait du délire. Il déchirait tous les capriers de la route, mangeait les capres, tirait le chastre à 500 pas, buvait l'eau du torrent dans sa course, comme le roi David, n'écoutant ni son estomac appauvri, ni ses entrailles insurgées, ni ses pieds endoloris. La lèvre convulsive, l'œil vitré, les mains bleues du gonflement des veines, les cheveux rebelles sous le feutre, le front tatoué de larges plaques de sueur et de sang, le lendemain, il entrait à Nice et se plongeait agonisant dans un lit de l'auberge de l'Aigle Noir. Chapitre 2. La bienfaisante nature lui donna un sommeil réparateur de 18 heures. À son réveil, il sonna pour demander à déjeuner. Un garçon d'hôtel monta, s'inclina devant M. Chay et lui dit « Que demanda la sua excellenza ?» « Pour le coup, s'écria le chasseur en provençal, je suis en Italie. Je vais mourir de faim, je ne sais pas l'italien. Oh, diable chastre !» En cette extrémité, il eut recours à la langue universelle et il fait signe au garçon qu'il mourait de faim. « Brodo manso vitello ?» dit le garçon. « Brodo manso vitello, » répondit M. Chay aux abois. Et il s'habilla. En prenant son gilet, une idée terrible vint l'assaillir. Sa dernière pièce de 5 francs était restée à hier. Sa bourse s'allongeait à sec sur le marbre de la cheminée. Des larmes mouillèrent ses yeux. Il fit un monologue, seule chose qu'il put faire gratis en ce moment. « Quoi ? » s'écria-t-il, « je serai donc réduit à figurer tristement devant la carte à payer lorsqu'on me la présentera. Et je ne sais pas la langue du pays pour me justifier. Bon, mourons de faim s'il le faut, mais soyons honnêtes et ne touchons pas à cet insolvable déjeuner jusqu'à ce que j'aie acquis la certitude de pouvoir payer le maître d'hôtel. » Comme il venait de prendre cette détermination héroïque, le garçon entra en parfumant la chambre des mets exquis étalés sur un plateau. Monsieur Chay fit un noble geste de refus et montra au garçon la porte pour lui et pour ses plats. « Je veux un violoncelle, » dit Monsieur Chay. « Ah, non capisco, » répondit le garçon en agitant la tête négativement. Un grand violino, una cosa che fa così. Et il faisait un signe expressif en raclant le dos d'une chaise avec la baguette de son fusil. Ah, dit le garçon, una bassa cantante, uno violoncello, anche in uno dell'osteria. Le garçon descendit et remonta bientôt avec un violoncelle. Il déposa au pied de M. Chay. Un rayon de joie courut sur les joues de l'infortuné chasseur. M. Chassé embrassa tendrement le violoncelle comme un ami qu'on rencontre en pays étranger. « Ah !» dit-il avec une mélancolique expression, « oublions les horreurs de la faim et de la misère dans le culte sacré des arts. Déjeunons avec un air de Béhulle. » Il accorda l'instrument, lui reconnut une belle qualité de son et préluda par le solo qui accompagne le tisonnement de l'autel au deuxième acte de la Vestale. « Oh, c'est la clarinette qui fait ce solo, » dit-il, « puisque je suis en Italie. Si je rencontre Spontini, je lui conseillerai de remplacer la clarinette par le violoncelle. Quelle différence d'effet ! Voyons, un peu de Méhul, divin Méhul. Le grand air, vainement pharaon. Le violoncelle chantait en versant ses notes suaves sur l'escalier sonore de l'hôtellerie. Les naturels du pays idolâtraient la musique française. Ils accoururent de toutes parts. Ils écoutèrent bouche béante. Ils applaudirent à briser leurs mains. On publia dans Nice qu'Apollon avait passé le Var. Le soir, circulaient en ville 30 sonnets qui commençaient tous par « Oh, fais beau, francese, dio della musica !» Cependant, Apollon était encore à jeun. Le maître d'hôtel entra respectueusement dans la chambre de M. Chay et lui demanda, dans une sorte de langage formé de tous les idiomes de la Méditerranée, s'il ne donnerait pas volontiers un concert dans la grande salle de l'auberge à 2 francs le billet. Ce fut un trait de lumière pour M. Chay. « Oh, mais je suis tout disposé à cela, » répondit-il. « Vous n'avez qu'à me faire annoncer, préparer la salle. Croyez-vous que je ferai de l'argent ?»« Oh, je réponds de 50 écus, » dit l'aubergiste. « Oh, c'est bien, » dit M. Chay. « Annoncez-moi pour demain et faites-moi servir à déjeuner. » M. Chay fit son programme. Sérénade de Montano et Stéphanie, la chasse du jeune Henri, le chastre nocturne avec variation, quand on fut toujours vertueux, etc. Vainement pharaon, Nice, mia Nice, adio, dédié aux amateurs de Nice par M. Chay. Ferez-vous un long séjour à Nice ? Demanda l'aubergiste en prenant le programme. « Oh non, non, je voudrais partir tout de suite après le concert. »« Ah, vous avez donc terminé vos affaires. »« Oui, oui, quel est le plus court chemin pour retourner à Marseille ?»« Ah, ben vous avez eu une bonne occasion. »« Après-demain matin, la Vierge des Sept Douleurs, un beau brick, part pour Toulon. »« C'est une promenade. »« Oui, ma foi, vous avez raison. » « Eh bien, faites-moi la grâce de retenir mon passage à bord de ce brick. Quand arriverons-nous à Toulon ?»« Ben, le soir, avant la nuit. Dans cette saison, il y a toujours bon vent. »« C'est charmant, d'autant mieux que je ne connais pas Toulon. Je suis arrivé hier sans entrer à Toulon. J'étais pressé, je poursuivais un oiseau. Ah. » Le concert fut un peu froid, mais il rapporta 200 francs à M. Chay. « Avec cette somme, dit-il, j'en ai la moitié de trop pour retourner au pays. » Et il distribua 100 francs au garçon de l'hôtel. Cette munificence d'artiste excita des transports d'admiration. Aujourd'hui, le brick qui bordait le chasseur mit à la voile pour Toulon. Le temps était superbe, comme il arrive toujours lorsqu'on quitte un port. La Méditerranée se papillotait de joyeuses petites vagues d'écume et roulait une paillette de soleil à chaque goutte d'eau. Les voiles se tendaient mollement. La proue de cuivre divisait la vague avec un doux bruit de monologue italien. L'algue, la roche vive, les coquillages, le goudron embaumaient le navire et ses parfums marchaient avec lui. M. Chay se promenait sur le pont dans l'attitude d'un homme heureux. « Quel beau spectacle !» disait-il. Et il était fier de lui. Il souriait à la mer. Il serrait fortement ses bras autour de sa poitrine. Il remerciait le chastre et son ange gardien. Le capitaine était assis au pied d'un mât et déjeunait. « Nous avons un bien beau temps, n'est-ce pas, capitaine ?» « Vent de terre !» dit le marin. « Ah, et alors ?»« Eh bien, alors ?»« Oui, » dit M. Chay. Et il regarda l'horizon et fredonna un air. Le capitaine continua son déjeuner interrompu, sans paraître désirer reprendre la conversation. M. Chay s'approcha du timonier et dit « Vent de terre, hé ! Le timonier ne répondit pas. Monsieur Chay se replaça auprès du capitaine. Ce soir, dit-il en se frottant les mains, nous prendrons un bol de punch avec le capitaine à Toulon. Le capitaine secoua la tête. Capitaine, n'est-ce pas le cap Sissier, ce que nous voyons là-bas ? Sacré tonnerre d'anglais ! Dit tout à coup le capitaine. Encore eux, les voilà ! Et il jeta son déjeuner dans la mer. Monsieur Chay recula de trois pas. « Les Anglais » s'écria-t-il, « il y a des Anglais, mais où sont-ils ?»« Quatre, cinq ou six, sept frégates !» dit le capitaine en frappant du pied. « Et vous croyez qu'ils nous prendront ?» demanda le pâle artiste. « Non, sûrement non. Ah, oh, je vais allumer ma pipe et avec mon baril de poudre, je fais sauter le brick. « Écoutez, écoutez, » dit Monsieur Chay avec ce ton d'assurance factice, que donne l'extrême frayeur. Écoutez. Eh bien, j'écoute. Voyons, pilote, où est ma pipe? Bon, mais songez, vous avez à bord des pères de famille, moi, par exemple, qui donne du pain à une femme et à sept enfants. Songez à madame, à votre épouse. Oh, je suis garçon. À la bonne heure, songez. Songez, je songe, monsieur le comédien, que je ne veux pas aller ramer sur les pontons de ces coquins d'anglais, m'entendez-vous ? Parfaitement, capitaine, ne nous fâchons pas. Ah, ça, monsieur le comédien, laissez-nous manœuvrer tranquille, passez à l'arrière et priez Dieu. Chapitre 3. Les brumes du matin avaient disparu et la flotte d'Hudson Lowe se montrait tout à découvert. Les frégates, les embarcations formaient une barre de croisière qu'il était impossible aux plus fins voiliers de percer sans être pris. « Pour un chastre !» disait M. Chay, le coude appuyé sur la dunette et les larmes aux yeux. Le capitaine ordonnait de formidables manœuvres. Tout le navire était en mouvement. Une embarcation anglaise s'avançait à fleur d'eau comme un caïman sur sa proie. « Au nom de Dieu !» s'écria M. Chay, les mains jointes. « Retournons à Nice, capitaine !»« Sacre Dieu, monsieur le comédien, si vous dites encore un mot, je vous fais fusiller !» En ce moment, la cloche sonna et disparut. « Qui donc a sonné ?» dit le capitaine. « Personne, » répondit l'équipage. « Bah, je comprends. »« Qui a sonné ?» dit M. Chay au timonier à voix basse. Ben, « C'est un boulet de 36 qui nous a passé sur la tête, » répondit le timonier en riant. Monsieur Chay se couvrit la tête de ses larges mains et s'assit sur le pont. « Tenez, monsieur, » dit le timonier, « en voilà encore un de 36, j'ai entendu siffler. Un pied plus à gauche et nous étions coulés. Et trois, quatre, cinq, oh les maladroits !» À Trafalgar, nous en avons avalé 10 000 sur le Pluton. Et pour un chastre, dit Monsieur Chay. Que dit le monsieur ? Oh, rien. Enfant, à vos pièces ! S'écria le capitaine d'une voix de mistral. C'était un vieux loup de mer qui avait passé sa vie avec les boulets. L'odeur de la poudre lui donnait des spasmes de joie. Son cœur était goudronné comme son chapeau. Monsieur Chay se leva timidement pour regarder par-dessus le bord. Ce qu'il vit insurgea ses cheveux. L'embarcation à 100 pas, une bouffée de fumée blanche et un éclair. Cette fois, on entendit éclater le bois de la poupe. « Bien tiré !» dit le diponnier. « Allons, que faites-vous là, monsieur le passager ?» s'écria le capitaine. « Et votre fusil, donc ?» « Allez chercher votre fusil. J'espère que vous ne l'avez pas pris pour chasser au gabion. » Monsieur Chay tressaillit. Il se glissa en se pelotonnant vers l'écoutille et son pied tremblait sur l'échelle de l'entrepont. Son infortuné fusil, incliné mélancoliquement contre un angle de la cabine, rendit plus vite encore à l'esprit de M. Chay tous ses souvenirs de malheur. Le voilà. Il y avait toute une histoire dans ces deux mots que le chasseur prononça sourdement. Et comme ses jambes lui flageolaient, il se laissa tomber de côté sur un hamac et recommanda son âme à Dieu. Les artistes ont le système nerveux très prononcé, mais il arrive toujours qu'après une excitation violente, la réaction s'opère, les nerfs se détendent, le marasme s'infiltre dans les os, le cerveau s'engourdit et le sommeil maîtrise les sens. C'est d'après cette théorie physiologique que M. Chay s'endormit à son insu. Le hamac balançait ses rêves. Il en fit d'affreux et d'étranges à cause de leur oscillation. Il vit des Anglais portant des chapeaux ombragés de plumes de chasse. Ces Anglais lui disaient « Goddam, Goddam » et l'emprisonnaient dans un violoncelle. Il vit des boulets de 36 qui servaient de balancier à des cloches errantes. Il vit une embarcation entrer à pleine voile dans la salle de concert à Nice, et Pharaon et Joseph perchés sur les palmiers d'hier qui lui criaient « Bravo » en égyptien. Il vit aussi le divin Méhul habillé en capitaine marin et composant un canon à 3 sabords. Ses rêves prolongèrent infiniment le sommeil du chasseur. À son réveil, il se trouva environné de la plus épaisse nuit. Il prêta l'oreille et il entendit un long et subtil sifflement comme si un vol d'âme passait à ses oreilles. Voilà tout ce qu'il entendit. « Je crois que je suis dans le néant », se dit-il tout bas avec un frisson. Cette conviction prenait à chaque instant une nouvelle force. Le silence était toujours profond, les ténèbres intenses. « Oh, il n'y a plus de doute, je suis dans le néant », répéta-t-il dans une oraison mentale. « Mais maintenant, que puis-je faire pour vivre dans cette position ?» Ce cas étant posé, M. Chay résolut de ne rien faire du tout, et il s'applaudit de cet expédient. Il était depuis quelques heures dans cet état d'immobilité sépulcrale, lorsqu'il entendit un pas pesant non loin de lui. « Qui va là ? » dit-il d'une voix de fantôme. « Oh, oh !» cria une voix. « Vous êtes encore couché, monsieur le comédien. Allons, allons, sur pied. Nous sommes arrivés. Nous voilà dans le port. » Monsieur Chay bondit dans son hamac. « Dans le port ? » dit-il. Et il marcha à tâtons, guidé par une faible lueur. Il heurta une échelle, monta, regardant les étoiles qui brillaient sur sa tête, et ne tarda pas de voir devant lui les lumières d'une ville et de respirer ces odeurs fortes qui s'élèvent des chantiers maritimes. « Ah oui, nous voici à Toulon, » dit-il, et son cœur fut inondé de joie. « Savez-vous que nous avons échappé belle ?» dit M. Chay à l'oreille du timonier. « Oh, la Sainte Vierge a fait un miracle. Elle nous a envoyé une bonne tempête juste au moment où nous allions être pris. » « Comment avez-vous trouvé notre manœuvre ?»« Oh, superbe manœuvre !»« Oui, avec une tempête qui nous faisait filer 10 nœuds !»« Nous avons eu une tempête !» s'écria M. Chay avec un effroi rétrospectif. « Et comment vous ne l'avez pas vue ?»« Oh, si, si, ah, c'est une tempête, Sainte Vierge !» Et il se retira à l'écart pour réciter le « Salve Regina » et prendre son fusil. Ensuite, léger de tout bagage, il se coula dans un de ces bateaux qui viennent s'offrir au navire en arrivée, et en 3 coups de rame, il tenait sous ses pieds le quai solide d'un port. « Béni soit Dieu, me voilà à Toulon, à 10 lieues de Marseille, » dit-il avec une joie concentrée. « À présent, une bonne auberge, et couchons-nous. »